encore que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1er au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1er au verset 9. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parole du Seigneur. Le titre de notre prédication ce matin, c'est « De qui êtes-vous ?» Alors, c'est une question à laquelle chacun cherche à répondre et la réponse concerne chaque croyant ce matin. De qui êtes-vous? Et depuis la création, la vie de l'homme reste et demeure une vie communautaire. L'homme ne peut pas vivre seul. Cependant, notre orgueil, notre quant à moi, rend impossible qu'il n'y ait pas de division et de discorde, ni de dispute dans une communauté où vivent des hommes et des femmes de cultures différentes. Et ce phénomène a maculé des tâches les familles, les couples, les amis, les associations et l'Église n'est pas épargnée parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes. De qui êtes-vous? Le passage nous dit que qu'il y a des paroles. Parce que entre hommes et femmes, le premier de tous les actes, c'est la parole. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Tout le monde connaît ces trois mots clés qui ouvrent les portes, hein? Et pourtant, l'un des mots qui alimente la discorde entre les chrétiens, c'est leur parole. Pierre disait aux Juifs du Sanhédrin était le tribunal des Juifs, il dit, on ne peut ne pas parler de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. C'est humain. Mais aujourd'hui, le mal, c'est que l'homme voit ou qu'il ne voit pas, il parle. Que l'homme entend ou qu'il n'entend pas, il parle. En Haïti, on dit l'homme peut vous cacher de quoi à manger, mais il ne cache pas les paroles. Et si un homme dit quatre mots et s'arrête, la femme, quant à elle, dit 12 mots et elle déborde. Parce que les femmes parlent plus que les hommes. Salomon dit, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Vous êtes abondante dans vos paroles, mais il faut savoir les paroles qu'il faut dire pour ne pas blesser les autres. Dans le récit de cette division dans l'église de Corinthe, Paul a classé l'homme en 3 catégories distinctes. Paul a parlé de l'homme charnel, l'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme adamique, c'est l'homme sensuel, qui n'est pas régénéré, ça veut dire cet homme n'est pas sauvé. Nous avons fait une étude dans Jude, regardons ce qui est écrit dans Jude. Pour parler de ce type d'homme. Dans Jude, verset 19. Alors, il n'y a pas de chapitre, puisque Jude, c'est un seul. Hein? Jude, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ces hommes naturels qui provoquent des divisions, ces hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Et c'est ces hommes qui causent toutes ces divisions. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. L'homme naturel peut être instruit, éloquent, aimable, séduisant, mais le sens spirituel de la parole de Dieu lui échappe complètement parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Et par contre, l'homme spirituel, c'est l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit en pleine communion avec Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. Dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'homme ivre affiche un comportement incorrigible. Il fait n'importe quoi, si vous voulez l'expression, quand il est sous. Mais pourtant, l'homme rempli de l'Esprit est contrôlé par l'Esprit. Si vous êtes contrôlé par l'Esprit, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Parce que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Et c'est Paul qui a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par qui vous êtes contrôlé ce matin? Est-ce que c'est par l'esprit? Il y a un troisième type d'homme. C'est l'homme Chanel. L'homme Chanel, il est né de nouveau. Ça veut dire qu'il est sauvé, il est régénéré. Mais il marche selon la chair et demeure enfant en Christ. Ça veut dire qu'il est sauvé depuis 20 ans, mais il est toujours resté enfant. C'est comme s'il est né, hein? Puisque la nouvelle naissance spirituelle, c'est en Christ. Il faut être né de nouveau. Dans 1 Corinthiens 3, du verset 1er au verset 4, qui est la base de notre prédication, nous voyons ce type d'homme, il est resté enfant parce qu'il n'y a pas de progrès chez lui. Il n'a pas changé comme ça devait être. Il est resté enfant. C'est difficile pour un enfant aîné, il n'a pas grandi. Il manque quelque chose. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, dans notre communauté évangélique, il y a beaucoup de mauvais vents doctrinaux. Il y a des faux docteurs, des faux prophètes, des faux prédicateurs. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, ils vont vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Vous allez chez les Adventistes du septième jour, ils vont vous dire que pour être sauvé, il faut observer le sabbat. Mais pourtant, le sabbat n'était pas fait pour nous. Donc ça veut dire qu'il faut croître dans la sainte doctrine de Jésus-Christ pour ne pas être emporté par ces vents doctrinaux. Dieu, il veut aussi que nous sachions en qui nous croyons. Paul, il a dit, moi, je sais en qui j'ai cru. Et vous croyez en qui? Selon les passages, nous avons vu que les croyants, les chrétiens de Corinthe, ils se confient aux hommes au lieu de se confier à Dieu. Ils cherchent les hommes. Moi, je suis d'Aldo, moi, je suis de Jean-Pierre, moi, je suis de Roland, moi, je suis de Jocelyn. Mais non! C'est Dieu qui est le centre de tout. Et à travers Jésus-Christ, vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous balader ailleurs. Il faut avoir le Jésus comme boussole. Et si vous mettez votre confiance aux hommes, c'est déjà un échec. Parce qu'ils attendent Jésus comme vous. Donc ce matin, il est important que nous ayons de la maturité chrétienne pour les responsabilités dans l'église locale. Dimanche dernier, nous avons fait l'annonce pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur de se faire baptiser. Et si vous n'êtes pas baptisé, on ne peut pas vous donner des responsabilités à l'église. Parce que vous êtes encore flottant, enfant. Vous ne pouvez pas donner des responsabilités aux enfants. Nous parlons ce matin des enfants spirituels en Christ. Mais aussi, si nous voulons parler des enfants biologiques, je ne peux pas donner à Laura des responsabilités à la maison. C'est un enfant. Vous êtes dans quelle catégorie ce matin dans ces trois types d'hommes? L'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme Chanel. Vous faites partie de quel type, de quel groupe? Je vous conseille de choisir l'homme spirituel pour être contrôlé par le Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes contrôlé par le Saint-Esprit, c'est le meilleur. Il n'y a pas d'autre. Parce que l'Esprit, il dirige tout et il dirige bien. Et non seulement parlant de paroles, mais il faut qu'il y ait de croissance aussi dans l'Église. L'Église doit grandir spirituellement en persévérant dans la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu. L'Église doit grandir dans les agapes. Quand on dit agape, c'est les repas fraternels que nous avons l'habitude de faire. L'Église doit grandir dans la communion fraternelle. S'il y a division entre nous, nous ne pouvons pas nous attabler ensemble pour manger. S'il y a des coups de tête à gauche, à droite, ou bien il y a des doigts qui pointent, nous ne pouvons pas. Parce qu'il faut qu'il y ait des communions fraternelles entre nous. Et l'Église restait dans la louange de Dieu. Et le Seigneur y ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'Église doit grandir numériquement. Avant de venir ici, là, nous étions à un autre endroit. L'effectif peut-être que nous avons aujourd'hui, ce n'était pas cet effectif que nous avions avant. Donc aujourd'hui, si l'Église reste encore en petit nombre, c'est que le travail d'évangélisation est trop négligé. Non seulement ça, il y a le manque de communion fraternelle. Un exemple clair, après la prédication de Pierre, 3000 âmes étaient venues à la repentance. Et si frère Roland était sorti ce matin, il a prêché, et puis après 3000 âmes sont venues à la repentance, qu'est-ce qu'on ferait? On n'aurait pas de place pour les mettre. Ésaïe avait annoncé la croissance numérique de l'Église dans Ésaïe chapitre 4 du verset 1er au verset 3. L'Église aussi doit grandir fonctionnellement. L'Église doit être bien organisée. Il faut savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce qu'il y a dans l'Église l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Paul dit au jeune pasteur Timothée, dans Timothée 2, verset 2, il dit: « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça veut dire que chacun de nous a une responsabilité. Paul avait laissé Tite à Crète. Pourquoi? Pour organiser l'Église. Paul avait laissé Tite pour faire ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Regardons ce qu'il dit dans Tite, chapitre 1er, verset 5 et verset 6. Il dit à Tite: « Je t'ai laissé en Grèce, en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à faire, à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Et Jéthro, Moïse avait le même problème. Moïse ne pouvait pas dormir vu de sa, la grande responsabilité qu'il avait avec un peuple nombreux. Il s'adressait à Jéthro, son beau-père, qui lui a dit, Moïse, mais tu te tues, tu te fatigues trop, il faut partager les tâches. Il dit à Moïse, tu choisis des hommes qui sont fidèles. Tu les confies des groupes de 10, de 20, de 30, de 50. Et ces hommes, ils sont là pour régler les petites affaires. S'il y a quelque chose qui les dépasse, qu'ils viennent auprès de toi. Selon Exode chapitre 18, versets 21 et 22. Ça veut dire, dans l'église, il y a une administration. Il y a une organisation. Ce n'est pas cela à le dos de tout faire. Si Aldo est resté avec toutes les responsabilités, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand il y a progrès dans une assemblée, dans une association, il faut que celui qui est là aujourd'hui, quand il est parti, faut-il bien qu'il y ait un autre. Mais oui. Parce que personne n'est indispensable. Et quand un monde meurt, il faut qu'il en ait un autre. Quand un monde est parti, il faut qu'il y en ait un autre. Donc ça veut dire, si vous ne pouvez pas trouver un autre pour assurer le travail, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Dans une église où il y a discorde, dans une église où il y a division, il ne peut pas y avoir de progrès. Car tout royaume divisé est sujet à périr. C'est ce que disait Jésus. Et non seulement c'est une responsabilité à nous de faire grandir, mais les divisions dans l'église, dans toutes les églises locales, il y a des problèmes de division. Dans l'église de Corinthe, l'esprit du monde semblait prendre le dessus de l'esprit de Dieu, auteur de tout don spirituel. C'est-à-dire que les gens, les frères et sœurs, au lieu de leur confier à Dieu, ils se confiaient aux hommes. Paul voulait que cette situation soit changée. Et selon les versets 3 et verset 4 de notre texte, le clan, le fanatisme, des groupes rivaux étaient entrés de plein fouet dans l'église de Corinthe. Et quand il y a clan dans l'église, il y a problème. Quand il y a le fanatisme qui est rentré dans l'église, il y a problème. En France, quand il y a PSG qui joue avec Marseille, il y a problème là-bas. Stade de France. En Amérique, quand il y a Copa América, Brésil joue avec Argentine, il y a problème. Parce que le fanatique, ils sont des dangers. C'est dangereux d'être fanatique. Sauf si vous êtes fanatique de Christ. Est-ce que vous êtes fanatique de Christ? Et ces comportements pernicieux constituent un danger pour l'Évangile et pour l'Église. À ceci s'ajoute une crise d'identité manifestée par l'origine sociale des chrétiens de Corinthe. Des tensions règnent entre ceux qui se disent pour Paul, d'autres pour Pierre, d'autres pour Apollos et d'autres pour Christ. Quand l'Église est dominée par des clans, des groupes rivaux, du fanatisme, elle régresse spirituellement. Elle ne grandit pas. Vous voulez la régression ou bien la croissance? Et Jésus même, depuis sa naissance, avait donné l'exemple. Il grandit en sagesse. Il grandit en connaissance. Il grandit en puissance. Et vous et moi, en tant que fils de Dieu, qu'est-ce que nous avons comme croissance? Vu l'instruction et l'éloquence d'Apollos, un groupe le suivait, alors que c'est lui dans son ministère qui avait proclamé que Jésus était le Messie attendu depuis longtemps. Selon Actes chapitre 18, versets 24 à 26, nous avons vu que Apollos était un homme instruit. Hein? Il était éloquent. Et vous savez, il n'y a personne qui soit plus instruit, plus éloquent que Jésus. Il n'y a personne qui avait un langage si doux que Jésus. Il y avait le roi qui envoyait ses soldats arrêter Jésus. Quand ces soldats arrivent, ils se mettent à écouter, à entendre Jésus. Ils ont oublié qu'il était venu pour arrêter Jésus. À leur retour, le chef lui demande, « Il est où celui que je vous envoie chercher ?» Vous savez quelle est la réponse qu'il donne? « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et pourtant, Paul dans Colossiens chapitre 2, regardons ce qu'il a dit aux Colossiens. Paul qui domine avec ses lettres le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8 et verset 9. Paul dit à l'église des Colosses, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Verset 9, « Car en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il ne faut pas suivre les hommes, mais suivre Jésus. Il ne faut pas vous conduire selon les hommes, mais conduisez-vous selon l'Esprit. Et les problèmes d'identité enveniment encore la communauté fraternelle de l'église locale. Ouais, jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis africain. Moi, je suis américain ou bien je suis haïtien. Moi, je suis antillais français. Et moi, je suis français ou moi, je suis européen. Frères et sœurs, amis, qui vous êtes là, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a ni blanc ni noir. Il n'y a ni riche ni pauvre, ni libre ni esclave, ni analphabète ni lettré. Il n'y a ni grand ni petit, ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de rivalité. J'apprécie toujours la déclaration d'Aldo quand il dit « Je suis citoyen du ciel ». Pas citoyen italien ou bien citoyen français. Ça ne veut rien dire. Parce que le monde entier est acquis. C'est l'homme qui a divisé le monde. Et voilà pourquoi quand Dieu a parlé à Josué, il a dit « Je vous donne cette partie où vous mettez le plan de vos pieds. Je vous donne comme héritage. » Nous sommes tous citoyens du ciel. Paul et Apollos étaient appelés par Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les uns comme évangélistes, les autres comme anciens, comme évêques, comme pasteurs, comme prédicateurs, comme docteurs. Et il a donné à chacun d'eux un ministère, selon 1 Corinthiens 3, verset 6. Paul a planté en créant l'église de Corinthe. Et Apollos a arrosé en fortifiant la foi des églises de Corinthe, la foi des chrétiens de Corinthe par son enseignement. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a de valeur devant Dieu, ce n'est non plus celui qui arrose. Parce que nous sommes tous égaux. De qui êtes-vous ce matin? D'Apollos ou de Paul ou de Jésus? Quelle que soit l'œuvre, quel que soit le ministère, notre boulot, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais c'est Dieu qui fait croître. Le résultat du travail, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir. Et finalement, il n'y avait pas de concurrence entre le travail de Paul et celui d'Apollos. C'est un travail complémentaire. C'est comme les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et le but de Paul et d'Apollos était d'annoncer l'évangile à la maturité, à la perfection et à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que vous êtes nés de nouveau en Christ. Paul dit, si vous êtes converti, vous êtes né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul compare l'église à un champ dans lequel travaillent différents ouvriers, mais tous sous la direction de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers avec Christ. Sous la direction de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. L'Église tout entière appartient à Dieu et non aux hommes. Et Paul, pour parler un peu avec un ton plus dur avec l'Église de Corinthe, regarde ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 4. Dans 1 Corinthiens 4, verset 21. Paul dit à l'église de Corinthe, « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec un verge? » Verge, c'est un bâton, hein? Ou avec amour et dans un esprit de douceur. Là, il y a des forces. Hein? L'amour et la douceur avec un bâton. C'est à vous de choisir. Et il continue dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Est-ce que c'est comme ça ce matin pour l'église biblique baptiste d'Argenteuil? Unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Et vous savez quel type de sentiment qu'il y avait chez Jésus? Sentiment d'amour, de paix, de joie, de douceur, de tempérance. Est-ce que vous avez ce sentiment chez vous? Ah, moi je suis français, vous êtes... Ah non? Ah, moi je suis lettré, vous êtes alphabet. Non! En Christ, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous ouvriers. Je vous exhorte ce matin de ne pas lâcher la poix pour l'ombre. Parce que c'est Jésus seul qui puisse nous comprendre. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous console. C'est lui qui est mort pour nous sauver. Ce n'était pas Paul, ce n'était pas Apollos. La condamnation, le mépris, la crucifixion, les coups à la croix, le sang coulé, ce n'était pas Paul, ce n'est pas Apollos, c'est Jésus. Voilà pourquoi ce matin, il faut vous associer avec Jésus. Donnez-lui la première place dans votre vie. Et tout cela était fait par amour. Hein? C'est par amour qu'il a pris notre condamnation. C'est grâce à Jésus que nous avons ce matin la vie éternelle. Et la voie par excellence que tout croyant doit suivre pour préserver la communion fraternelle dans l'unité de la foi, c'est l'amour. Dimanche dernier, Pasteur Aldo, vous avez bien parlé de l'amour. Dieu est amour. Et la description, mes frères et sœurs, de cet amour est trouvée largement dans 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que, arrivé chez vous, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 13? L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se venge pas. Si vous n'aviez pas l'habitude de lire, puisque peut-être vous avez l'habitude de l'entendre, parce que quand il y a mariage, on a toujours une tendance à venir avec ce verset, ce passage, 1 Corinthiens 13. Allez, faites l'expérience de la lecture de ces versets et vous allez voir. Nous ne suivons pas des hommes, nous suivons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des enfants des hommes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par la grâce des hommes. Voilà pourquoi nous vous exhortons ce matin à rester unis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Pour qu'il n'y ait plus de division, qu'il n'y ait plus de paroles qui blessent les autres. Il ne faut pas nous mordre les uns les autres. De supporter les uns les autres. Et tout doit se faire par amour. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au service de la Sainte-Seine.